Ce premier exposé sur l'histoire de la Kabbale appelle quelques précisions préalables. Quelques précisions d'ordre théorique. Ce n'est pas simplement pour faire intelligent, mais c'est parce qu'il y a vraiment un problème dans la construction historique de l'objet Kabbale, de l'objet à la fois historique, social, doctrinal, textuel, qu'on appelle la Kabbale, mais c'est un concept qu'on va laisser flotter pour éviter de donner une définition qui risquerait de l'enfermer trop vite, pour, bien entendu, aborder cette problématique de façon ouverte et en tant que problématique de recherche. Alors, la question théorique qui me semble nécessaire de poser, c'est comment peut-on penser qu'il puisse exister une histoire de la Kabbale ? Il y a une histoire de toute chose. On peut faire l'histoire des pratiques rituelles, l'histoire des doctrines ou des croyances religieuses, l'histoire de la science, l'histoire des techniques, l'histoire des guerres, des règnes. Mais étant donné que la Kabbale semble avoir longtemps cheminé de façon silencieuse, ou en tout cas en ne laissant que pas ou très 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 peu de traces écrites, je crois qu'il est loisible de se demander si une histoire de cette préhistoire, je crois que ce terme serait pertinent, de la Kabbale est possible. Prenons un ouvrage qui tente d'aborder le sujet. L'ouvrage de Gershom Scholem, une somme connue sous le nom en français de « Les origines de la Kabbale », qui avait paru chez Aubier et Montaigne en 1966. Cet ouvrage est composé de plusieurs parties. Une partie sur le Sefer HaBa'ir, le livre de l'éclat, le premier texte de la Kabbale qui remonte au XIIe siècle, et une partie sur les kabbalistes de Provence et du Languedoc, les premiers kabbalistes, comme dit Scholem. Bien entendu, tout le long du livre, Scholem essaie de montrer comment le Ba'ir s'est inspiré de tel ou tel midrash, en particulier d'un texte qu'il a cru retrouver, qui s'appelle le Sefer Razaraba, le livre du grand secret, et qui serait un midrash perdu, qui aurait constitué une sorte de strate primitive à partir duquel le Ba'ir aurait été élaboré. Mais ce livre qui porte le nom des origines de la Kabbale, dont en fait, il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un livre sur les origines de la Kabbale. Du reste, que ce soit dans les grands courants de la mystique juive, un autre ouvrage de Gershom Scholem, publié dans les années 40, que ce soit dans un article où il résume ce qu'il va expliquer de façon plus détaillée dans les origines de la Kabbale, un article que nous examinerons d'un peu plus près prochainement, Scholem parle et traite d'époques antérieures au Ba'ir, et a fortiori aux kabbalistes de Provence. Il parle de la mystique de la Merkaba, la mystique du char. Il parle des kabbalistes, ou plus exactement des mystiques, des piétistes ashkénazes, Renan Ashkenaz. En un mot, il ne fait pas une histoire de la Kabbale, ni des origines de la Kabbale, mais de la mystique juive. Mystique juive qui va prendre le nom de la Kabbale un peu plus tard, à partir du XIIe, XIIIe siècle. En tout cas, au niveau d'une première approche. Or, dans son ouvrage, Les origines de la Kabbale, il ne traite pas des origines de la mystique juive, mais bien des origines de la Kabbale, proprement dit. Donc il y a une différence importante à faire entre une histoire de la mystique juive et une histoire de la Kabbale. L'histoire de la Kabbale commence à un certain moment de l'évolution de la mystique juive. La mystique juive englobe l'histoire de la Kabbale, mais elle ne s'y réduit pas. Pourtant, Gershom Scholem et plusieurs chercheurs contemporains continuent à utiliser le terme de Kabbale comme synonyme de mystique juive. Voilà une question qui mériterait une petite analyse, non pas parce que ça nous plaît de faire de la critique pour la critique ou d'entrer dans des polémiques ridicules, mais parce que je crois qu'il y a un enjeu qui se cache derrière ces appellations et que cet enjeu mériterait d'être élucidé. Revenons à la question de l'histoire de la Kabbale, que l'on ne distinguera pas de l'histoire de la mystique juive, pour des raisons que nous allons expliquer tout de suite. En effet, si nous avons décidé dès le départ d'utiliser le terme de Kabbale ou de mystique juive comme des quasi-synonymes, c'est beaucoup plus dans le souci de laisser ouvert les problématiques qui se posent par rapport à l'une et l'autre de ces appellations, plutôt que de les enfermer dans un lexique qui n'aurait pas d'autre utilité que de permettre une classification positiviste dont l'utilité serait peut-être moins grande que la négativité ou la nuisance. Il est peut-être utile de rappeler que l'historiographie de la Kabbale a été fondée au XIXe siècle, essentiellement par l'école allemande, qui a vu la Kabbale sous l'angle de ses préoccupations propres, c'est-à-dire essentiellement ou presque essentiellement reconnaître les influences étrangères qui ont fait que la Kabbale dans le judaïsme a pu se développer. Si Salomon Munch voyait, il était un des rares, dans la Kabbale le produit du judaïsme alexandrin, la plupart des auteurs, dans la foulée de la Wissenschaft, des études scientifiques du judaïsme, des sciences du judaïsme, comme on disait à l'époque, on cherchait dans le gnosticisme, dans le christianisme ancien, et surtout dans les courants de type hérétique divers, que l'on considérait comme étant une forme de syncrétisme sans forme distincte, on cherchait dans ces courants les préalables de la Kabbale. Il faut noter tout de même qu'un auteur français qui écrivait tout de même sous la lecture, sous le contrôle et sous l'influence des savants allemands, Adolphe Franck, vers la fin du XIXe siècle, avait vu dans la Perse ancienne et le zoroastrisme le véritable inspirateur de la Kabbale. La Kabbale a été longtemps pour tous ces savants une forme de croyance religieuse ou de doctrine philosophique foncièrement étrangère à la fois au judaïsme et même au monothéisme qui venait d'horizons les plus divers, mais qu'il était difficile de considérer comme partie intégrante du judaïsme, tout simplement parce que la vision du judaïsme était elle-même complètement structurée par l'idée qu'il s'agissait d'une religion, d'un monothéisme éthique, rationnel, ce que Scholem plus tard repoussera comme étant une vision d'un judaïsme calculateur, froid, qui n'a absolument aucun rapport avec le judaïsme qu'il découvrait dans ce qu'il appelait la mystique juive vue sous l'angle du romantisme. Et à cet égard, un article qui a récemment paru en français de Michael Lovy, qui s'intitule « Messianisme, romantisme et utopie dans l'œuvre de Gershom Scholem », qui est paru dans un ouvrage collectif italien, « Millenarismi nella cultura contemporanea con un appendice su Jovel ebraico e Jubileo cristiano Angeli 2000 » à la page 69 à 84. Cet article montre bien que Scholem a réagi non seulement à la Wissenschaft, mais également à son entourage, à son contexte social dans lequel le judaïsme, par les grands sociologues et penseurs allemands, comme Max Weber ou comme Werner Sombart, était considérée comme une religion calculatrice, incapable d'élan romantique, de mysticisme, de dévouement effervescent, bref, se réduisait à une forme totalement desséchée de religiosité. L'histoire de la Kabbale est donc très largement dépendante de l'historiographie et des orientations idéologiques, mais plus précisément des réactions au contexte social que les historiens de la Kabbale ont investi dans leur création historique, dans leur construction d'une histoire. Il n'y a donc pas d'histoire de la Kabbale sans histoire de l'historiographie de la Kabbale. Et c'est, je crois, la première chose qu'il faut vraiment comprendre. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas simplement aborder l'histoire de la Kabbale de façon critique et un petit peu approfondie. En effet, comment penser qu'il est possible, il serait possible d'envisager l'histoire à partir uniquement des faits, en s'en tenant seulement aux réalités objectives, alors que ces mêmes faits, ces réalités dites objectives ou considérées comme objectives que transmettent les documents, sont elles-mêmes le produit d'une organisation, d'un assemblage, d'une attention discriminante que les historiens eux-mêmes choisissent selon leurs besoins, leurs calculs, leur jeu dans la société. Autrement dit, il n'y a pas d'histoire de la Kabbale qui n'est une histoire de l'historiographie sociale de la Kabbale. Les choses paraissent peut-être un petit peu compliquées, mais elles sont toutes simples. Une socio-analyse, donc une approche critique de l'histoire de la Kabbale, qui est la seule façon d'approcher l'histoire de la Kabbale et de comprendre la Kabbale dans son histoire, en faisant l'effort de distinguer ce qui relève de la construction socialement et historiquement déterminée, construction qui se veut scientifique, qui l'est jusqu'à un certain point, jusqu'au point justement où le poids de la société, du discours dominant, se fait sentir. C'est pourquoi nous serons souvent amenés dans notre parcours à évoquer non seulement les faits d'histoire, tels que les documents peuvent nous les relater, mais aussi les faits d'historiographie de l'histoire de la Kabbale, c'est-à-dire la façon dont les historiens ont présenté, ont retrouvé ces sources, compte tenu des contraintes avec lesquelles ils devaient jouer, auxquels ils faisaient face, et parfois qu'ils imposaient eux-mêmes à leurs contemporains et qu'ils ont imposé à leurs successeurs. Pour rédiger une histoire de la Kabbale qui serait digne de ce nom, il faudrait donc faire toute une histoire des représentations que les Juifs se sont faites du judaïsme aux différents moments de leur histoire, et ceci dans l'espace européen depuis le XIXe siècle. Il n'y a pas d'histoire neutre, et il n'y a pas de neutralité des historiens par rapport à cette histoire. Cependant, cela ne dévalue pas ni ne dévalorise de quelque façon le travail des historiens. Simplement, ça nous invite à avoir une attitude critique vis-à-vis de ce travail d'historien. Non seulement vis-à-vis de leurs travaux savants en tant qu'historiens sur un objet, donc revoir les objets, relire les textes qu'ils ont lus, avoir avec un autre œil que le leur, et nous sommes nécessairement amenés à avoir un autre regard que le leur dans la mesure où nous ne vivons pas dans la même société, à la même époque et forcément aux mêmes endroits qu'eux-mêmes. Mais également, cela nous contraint à adopter une attitude doublement critique. Critique vis-à-vis des sources, c'est là le travail de base de l'historien qui se respecte, mais critique aussi vis-à-vis de la lecture qui ont été faites de ces sources et qui sont faites encore aujourd'hui de ces sources. Autrement dit, on ne peut pas aborder l'histoire de la Kabbale en restant totalement ignorant ou neutre par rapport à l'histoire du judaïsme dans son ensemble, mais surtout par rapport aux représentations globales, à l'idée que l'on a de ce qu'est le judaïsme. Et c'est d'autant plus vrai et plus fort dans le judaïsme, qui, comme chacun sait, n'est pas une religion que l'on peut décliner en termes d'un credo ou d'une série de dogmes ou de croyances délimitées. Il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas d'organisme central, et pourtant il y a des autorités, et des autorités fortes, qui s'exercent de façon discriminante, en s'adressant à un public donné à travers des moyens de communication qui leur sont propres. En un mot, selon que l'on va venir de tel ou tel milieu, que l'on va s'insérer à tel ou tel endroit, dans telle université ou dans telle autre université, que l'on va être croyant ou incroyant, ou plutôt, même indépendamment des questions de l'investissement personnel, de l'engagement personnel du chercheur, le simple fait qu'il appartient, ou qu'il se reconnaît, ou qu'il a été formé dans ses études, dans un camp plutôt que dans un autre camp, de la recherche, dans une société ou dans une autre société, ou tout simplement qu'il a accédé à des sources, ou à des sources de seconde main essentiellement, à travers tel ou tel canal, eh bien cela va lui donner une perspective sur l'histoire de la mystique juive différente. Cette introduction, ces prolégomènes à une histoire de la Kabbale, je dis bien à une histoire de la Kabbale et non à l'histoire de la Kabbale, histoire avec un grand H qui ne serait possible qu'à la condition que l'histoire de la Kabbale soit une histoire nationale, ce qu'elle n'est pas. Voilà, je dis déjà quelque chose qui pourra faire frémir certains chercheurs pour qui l'histoire de la Kabbale se confond avec l'histoire nationale du peuple juif. C'était le cas, par exemple, de Gershom Scholem, qui voyait, ainsi que d'autres savants allemands qui ont trouvé refuge aux approches de la Seconde Guerre mondiale en Israël, enfin dans la Palestine, comme on l'appelait à l'époque, qui cherchaient dans la mystique juive des éléments qui leur permettaient de reconstruire ou de ressaisir l'histoire du judaïsme comme histoire nationale, avec cette insistance sur le mythe, l'insistance sur le mythe que l'on observe d'ailleurs souvent aujourd'hui dans le travail des chercheurs, en particulier israéliens. Cette insistance est très très liée à les retrouvailles avec la notion d'histoire nationale, l'histoire du peuple juif et l'histoire du judaïsme, et donc de la Kabbale, comme histoire nationale. Et il n'y a d'histoire nationale que s'il y a, en tout cas aux yeux de ces chercheurs, de la fin du 19e, début du 20, de la première moitié du 20e siècle, que s'il y a histoire nationale. Il n'y a d'histoire nationale que s'il y a un mythe national, le mythe de la nation, un mythe collectif, un mythe rassembleur, la nation étant constituée par la communauté de ceux qui s'identifient à elle, non seulement par ceux qui sont présents aujourd'hui, mais par ceux qui vivaient il y a des générations antérieures. Donc toutes les générations, dans leur succession, sont représentées dans la nation, existent dans la nation, qu'ils soient vivants aujourd'hui, qu'ils l'étaient ou qu'ils le seront demain. Toutes ces personnes constituant cette communauté nationale, entre parenthèses, cela nous donne à réfléchir aussi sur la façon dont les kabbalistes ont nommé Israël en tant qu'entité collective, comme étant la Knesset Israël, la communauté d'Israël, et qui est aussi constituée comme nation, dans le sens de mythe national. On verra qu'il y a une complaisance, un jeu de résonance entre la construction des kabbalistes et celle des historiens de l'école de Scholem, pour le dire rapidement. On verra aussi, en approchant de plus près ces notions, qu'il y a des différences extrêmement grandes, des différences fondamentales entre ce que Scholem appelle le mythe national et ce que les kabbalistes appellent la Knesset Israël, la communauté d'Israël. Comment un concept élaboré par les mystiques juives, les kabbalistes, un concept, en tout cas une notion, un terme significatif. Comment il a pris ce concept, les formes de ce qui va être un mythe d'une entité nationale. En un mot, il y a un jeu de miroir, de résonance, de va-et-vient incessant qui nous fait passer de l'historiographie à l'histoire, de la source textuelle du concept tel qu'il se trouve dans les textes de la Kabbale, au concept tel qu'il est repris, remanié, critiqué d'une façon particulière à l'intérieur, enfin approché critiquement de façon particulière à l'intérieur des œuvres des historiographes et des philologues et philosophes qui retravaillent et sont les médiateurs de la Kabbale vis-à-vis du public, parce qu'il ne faut pas oublier que le chercheur, en matière de mystique juive, comme en matière de religion en général, n'est pas seulement un chercheur, c'est aussi un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait découvrir au public qui a d'autres préoccupations des choses anciennes, des sources ou des traditions anciennes qui rejoignent, qui répondent à ces préoccupations et qui même sont susceptibles, comme c'est le cas aux yeux de Gershom Scholem et de son école de la mystique juive, d'apporter de nouvelles réponses ou des réponses, des explorations nouvelles à des voies qui semblaient sans issue et sans impasse, et en impasse, comme c'est le cas du judaïsme rationnel, calculateur, tel que l'ont, semble-t-il, élaboré ou l'ont voulu un certain nombre de personnalités du judaïsme européen au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle.